Chapitre 4. Telles étaient les images qui se pressaient dans la mémoire du ministre d'hier et de demain, tandis qu'il regagnait le modeste appartement du boulevard de la Saussée où il vivait depuis 10 ans déjà. Ces visions s'étaient faites si présentes qu'il était arrivé devant sa porte sans s'apercevoir de la distance ainsi franchie. Cet ambitieux avait compris que, par ce temps de parvenu et de triporteur, la simplicité des mœurs est une force. Il n'y avait d'ailleurs pas de mérite, n'ayant jamais aimé le luxe. Tout son personnel consistait en un vieux ménage, dont l'homme était promu à la dignité de valet de chambre et la femme à celle de gouvernante, quand le maître montait au pouvoir. Quand il en tombait, il redevenait, lui, un domestique à tout faire, elle, une modeste cuisinière. Il attendait ce soir-là comme d'habitude, ayant allumé le feu dans le cabinet de travail, où la calme lueur de 2 lampes éclairait les casiers remplis de livres et de dossiers, la large table encombrée de notes et de rapports. Dînait-il dehors, Favanne réparait le temps perdu dans le monde en prolongeant jusqu'à des 2 et 3 heures du matin sa laborieuse veillée. Cette fois, lorsqu'il se retrouva seul devant ce bureau de politicien, il ne se sentit pas le courage de dépouiller les lettres des lecteurs et les rapports parlementaires. Trop de ses souvenirs avaient été remués trop profondément et, surtout, il était trop épouvanté de ce qu'il découvrait en lui après tant d'années, de cet intérêt soudain réveillé avec une irrésistible force pour cette créature qui n'avait été, au demeurant, qu'un épisode lointain et passager de sa première jeunesse. Non, voici qu'il constatait, une fois de plus, cette anomalie, aussi étrange que jadis, la conduite de Clémentine à son égard. Cet enfant, rencontré au mois de décembre 1880, avec laquelle il avait ébauché ce roman, avorté dès le printemps suivant, cette coquette qui s'était amusée à se faire aimer de lui en préparant son mariage avec un autre, et probablement par le plus infâme des calculs, cette digne fille d'une mère galante et qui, à 19 ans, avait pu se fiancer avec Miossens, tandis qu'elle lui donnait des rendez-vous, à lui, Favanne, eh bien, elle avait été, non pas un épisode de sa jeunesse, mais toute sa jeunesse. Elle l'était encore en 1896. Que de causes secrètes et fatales avaient conspiré à produire cet effet? La sécheresse de la vie tout en ambitions actives qu'il menait depuis lors et au cours de laquelle il n'avait littéralement plus eu le temps d'aimer, l'exceptionnelle intensité de cette première souffrance, l'énigme même de ce caractère auquel il avait trop pensé, la souveraine élégance enfin, la finesse exquise, la rare beauté de cette demi-slave, son contraste avec les vulgaires rencontres de sensualité qui représentaient la femme dans cette dure existence d'homme d'État, plébéien et pauvre. Ces motifs, Favanne ne s'en rendait pas compte. Il ne pouvait pas douter du résultat. Lorsqu'il avait subitement aperçu Madame de Miossens à l'hôtel du Couldray et qu'il l'avait reconnue, il avait cru d'abord n'éprouver pour elle qu'un sentiment de curiosité. Il avait demandé à un des habitués de la maison, comme distraitement, « C'est bien Madame de Miossens, cette jolie femme en blanc. Où donc est son mari ?»« Pas ici, puisqu'elle y est, » avait répondu gaiement son interlocuteur. « C'est un de nos ménages les plus parisiens. » Favanne n'avait pas insisté, de peur d'en apprendre davantage. Étant donné la conduite de Clémentine avec lui, quand elle n'avait pas 20 ans, il devinait trop qu'une telle jeune fille ne pouvait pas être devenue une honnête femme. Il appréhendait de le savoir positivement. À quel degré cette créature restait dangereuse pour lui, ce simple frémissement devant une révélation possible de ses fautes aurait dû l'en avertir. Il s'était dit ce que se disent tous les amoureux qui se croient guéris, il y a si longtemps. Et s'il n'avait interrogé personne sur la jeune comtesse, il l'avait observée. Il l'avait vue causer avec l'un, causer avec l'autre, sans l'aborder lui-même, puis, à un moment, dès ce premier soir, à l'approche d'un certain personnage, il avait constaté l'altération soudaine de tout ce délicat visage, demeuré si fin, si jeune, si pareil par le sourire et dans l'expression des yeux, au cher et décevant fantôme d'autrefois. Il avait vu la terreur de Clémentine quand Vidville la saluait. Par une divination d'antipathie, Favanne avait aussitôt éprouvé, contre celui qui paraissait émouvoir ainsi son ancien ami, une haine dont la vivacité l'étonna lui-même. Il avait demandé le nom de cet inconnu. Pas un mot ne lui avait été dit qui pût lui révéler quel bruit courait sur la liaison de Madame de Miossens avec Vidville. C'est une de ces 20 francs-maçonneries du vrai monde que le silence devant un étranger sur des fêtes de cette sorte, fût-ce-t-il de notoriété quasi publique. Ajoutons que, sachant jouer de sa physionomie virginale comme elle en jouait, Clémentine déconcertait les plus justifiées médisances. Mais Favanne n'avait pas eu besoin d'être initié à la chronique parlée des clubs et des salons pour comprendre que les rapports de ces deux êtres, l'un avec l'autre, cachaient un mystère. Il s'était dit « Qu'est-ce que cela me fait? Mariée comme elle l'a été, avec le sang de sa mère dans les veines, elle a des aventures. En voilà un des héros. » Et puis, il n'était revenu à l'hôtel du Couldray une seconde et une troisième fois dans ces quelques semaines que pour étudier de plus près ce mystère qui ne lui faisait rien. Il l'avait constaté de nouveau à n'en pouvoir plus douter, car Clémentine et Vidville s'étaient trouvés, eux aussi, chez Madame du Couldray, dans ces deux soirées. À la seconde, ayant rencontré le regard de la jeune femme fixé sur lui, Favanne avait dû la saluer lui aussi. À la troisième, la sensation de la terreur dont il la voyait saisie l'avait emporté sur toute fierté, sur tout bon sens, et il était allé droit vers elle, lui tenir l'insensé discours auquel elle avait répondu si gracieusement, si coquettement aussi, puisque d'entendre sa voix et d'être priée à venir chez elle de cette façon, avait jeté l'énergique leader, le courageux athlète, comme l'appelaient les journaux de son parti, dans cette crise de souvenirs et de regrets, d'appréhension et d'incertitude. « Non, je n'irai pas chez elle !» C'est sur cette phrase prononcée à haute voix que cet homme malheureux reprit les papiers épars à même le bureau où il s'était accoudé pour prolonger sa méditation bien avant dans la nuit. Il commença de décacheter son courrier du soir et y trouva une lettre qui le fit, malgré lui, sourire. Lorsqu'il avait, dans le salon de l'hôtel du Couldray, quelques heures plus tôt, marché droit à Madame de Miossens pour lui offrir sa protection, à la manière d'un chevalier de légende, son projet n'était pas très net dans son esprit. Pourtant, lui aussi, comme le subtil et madré Miro, auquel il ne ressemblait guère, il avait eu devant Vidville la vague intuition d'un chantage sentimental exercé sur Clémentine, sans doute au moyen de quelques correspondances. En qualité d'ancien ministre de l'Intérieur, il avait pensé aussitôt au seul moyen pratique pour arrêter de telles manœuvres à une démarche auprès de la préfecture de police. C'était le sens de sa proposition, presque extravagante dans sa forme, et que la jeune comtesse avait accueillie avec une légèreté soudaine, toute rassurée, toute frivole et gaiement railleuse. « Que serais-je devenue, songea Favanne, si elle avait vraiment eu besoin de moi et si je lui avais promis l'appui de Lardin ?» La lettre, qui inspirait au politicien cette ironique réflexion, en le rappelant à la réalité de sa vie quotidienne et présente, émanait d'un de ses collègues, le plus important avec lui des membres du précédent cabinet, son rival en éloquence et pourtant son ami, Martial Parcellier. Il y donnait rendez-vous à Favanne pour le lendemain à 2 heures, en insistant afin que celui-ci fût exact à tout prix. Une petite note, découpée dans un journal du soir et jointe à la lettre, expliquait cette insistance. Parcellier l'avait souligné au crayon rouge en écrivant en marge « Cela dit tout ». Il s'agissait d'une très importante et très véreuse affaire de concession dans une colonie sur laquelle Favanne et ses amis étaient convenus d'interpeller le gouvernement. Ils avaient décidé de choisir le moment où une campagne s'ouvrirait à ce sujet dans la presse pour provoquer eux-mêmes une explication publique. Ils comptaient que le scandale serait énorme et l'occasion bonne pour revenir aux affaires. La réunion chez Parcellier allait être le prologue de l'attaque. Le moment eût été bien choisi, se dit encore l'ambitieux, pour demander une faveur à l'alter ego de Dufresne. Dufresne était le ministre de l'Intérieur qui avait remplacé Michel Place Beauvau et l'intime en effet de Lardin, le préfet de police actuel. Et voici que, subitement, rien qu'à regarder de nouveau la signature du sec et impérieux parcellier, la salle du Palais Bourbon se peignit devant les yeux de Favannes. Toute son existence présente, la vraie, reflua du coup à son cerveau. L'hallucination rétrospective, où il s'abîmait depuis des heures, fut dissipée. Ce fut le souffle invisible qui passe sur les paupières de l'hypnotisé. Il répéta « Non, je n'irai pas chez Clémentine ». Et quand il se mit au lit, la politique l'avait repris, du moins il voulait qu'elle l'eût repris et tout entier. Il s'efforça de s'endormir en substituant à l'image perfide et délicieuse de Madame de Miossens, celle, beaucoup moins jolie mais plus réconfortante pour son courage, des compagnons de lutte que l'on appelait tantôt le groupe Parcellier, tantôt le groupe Favannes. Il réussit presque tant il s'était dressé depuis des années à dompter ses nerfs et à gouverner son cerveau comme un cavalier gouverne son cheval. Hélas, c'était justement cet abus de l'activité volontaire qu'il avait payé cette soirée-ci et qu'il allait payer le lendemain par une irrésistible, une invraisemblable et pourtant trop naturelle poussée d'émotions romanesques. Ce lendemain, pourtant, ne s'annonçait guère comme devant laisser une place à l'amoureux à côté du professionnel. C'était le jour où, de 8h à midi, une fois par semaine, Favannes recevait ses électeurs. Il s'était fixé à Neuilly 10 ans auparavant pour deux motifs. Assurer plus de tranquillité à son travail et s'y tailler un fief parlementaire. Depuis 8 ans qu'il représentait l'arrondissement, il entretenait, en effet, des relations personnelles avec quantité de petites gens qui venaient chaque dimanche, sous prétexte d'intérêts électoraux, le consulter sur des affaires de famille. La nécessité d'écouter en détail 20 confidences domestiques et d'y répondre avec précision ne permit aux députés populaires aucune rechute dans le sentimentalisme. Le dernier visiteur s'étant attardé, il ne put se mettre à table que vers 1h moins le quart, le temps de manger à la hâte un déjeuner réchauffé, de parcourir les journaux du matin et d'aller à la réunion organisée chez Parcellier. Michel en était au milieu de ce frugal repas, rendu plus hâtif par l'approche de ce rendez-vous, lorsqu'un coup de sonnette fit bougonner le fidèle valet de chambre. « J'avais pourtant bien donné la consigne de ne laisser monter personne. » Il alla ouvrir et, après une minute d'altercation, il reparut tenant une lettre. « C'est un homme, continua-t-il, avec une mine plus irritée encore, qui voulait remettre cela à monsieur en main propre. Il attend la réponse. Ils feront périr monsieur de ne pas le laisser seulement manger tranquille. Ça ne presse pourtant pas à la minute leur bureau de tabac. » Si le vieil homme n'avait pas été trop occupé à maudire les importuns, de sa bouche sans dents qui donnait un pli terrible de dogue hargneux à la plus bonasse des physionomies, il aurait pu voir son monsieur, comme il disait familièrement, changer de couleur dès le premier regard jeté sur l'enveloppe. Michel reconnaissait l'écriture de Clémentine, cette écriture, contemplée autrefois avec tant d'idolâtrie sur des enveloppes pareilles, pas beaucoup, puisque les messages reçus ainsi étaient juste au nombre de 4 et que celui-ci faisait le 5e. Oui, c'étaient bien toujours les mêmes caractères, nerveux et sinueux à la fois, élégants et un peu enfantins, jetés et retenus tous ensemble, et qui lui ressemblaient, qui avaient l'air de lui ressembler. Et c'était aussi le même art de choisir qu'elle écrivit ou qu'elle parlât, précisément les mots les plus capables de troubler profondément l'homme à qui elle s'adressait. Que de choses n'avait-elle pas su mettre dans ce billet, qui n'avait pourtant que quelques lignes, et qu'elle n'avait même pu commencer par une appellation quelconque, tant les rapports étaient indéfinissables entre elle et son ancienne amie. Dimanche matin. Vous m'avez dit hier que si j'avais besoin de vous, je vous trouverais. Nous n'étions pas dans des conditions où je pusse vous répondre. Mais c'est vrai, votre sympathie, puisque vous voulez bien m'en garder un peu, a deviné juste. Peut-être dépend-il de vous de me rendre un grand, un très grand service. Je n'aurais pas osé vous demander votre appui si vous ne me l'aviez pas offert, et pourtant, voici bien longtemps que je désire vous revoir et causer avec vous. Je suis tenté de me réjouir du souci présent dont j'ai à vous entretenir, puisqu'il me donne cette occasion tant désirée. Si vous venez à 2 heures aujourd'hui, vous me trouverez seul. Venez. Quand vous saurez ce qui se passe, vous comprendrez que j'ai insisté. Chaque instant qui s'écoule peut être fatal à votre toujours amie, qui n'est ni plus heureuse ni plus ménagée qu'au temps où elle vous a rencontré. C. P.S. J'habite toujours l'hôtel du Faubourg Saint-Honoré, même maison, même prison. Michel Favanne lut et relut ces quelques lignes. Il s'exhalait de la feuille où s'étaient posés les doigts de Clémentine une senteur presque imperceptible. Il reconnut la fraîcheur douce du lilas de Perse, le parfum dont elle se servait déjà autrefois. Elle lui en avait donné un petit flacon à l'époque des visites à l'hôtel de Révigny, auquel le billet faisait une si timide, une si nostalgique allusion. Ce que cette écriture et ces phrases n'auraient peut-être pas obtenu, la fine suggestion de ce lointain arôme allait l'obtenir. Magiquement, invinciblement, la porte du passé venait de tourner à nouveau sur ses gonds. Michel demanda une plume, du papier et de l'encre. À peine s'il hésita 2 minutes, le temps de respirer de rechef le relent tentateur qui lui rendait si présent, les troubles obscurs et passionnés de sa sensualité de jadis, quand la jeune fille le frôlait de sa robe, de son bras, de sa main, et qu'il respirait sa jeunesse dans ce délicieux parfum. Puis de cette plume qui, demain peut-être, si la campagne machinée par le groupe parcellier réussissait, paraferait des décrets place Beauvau, il griffonna 2 billets, coup sur coup, fiévreusement. L'un était adressé au dit parcellier, et Michel s'y excusait de ne pouvoir assister à la réunion de l'après-midi, sous le prétexte d'une affaire inattendue, impossible à remettre. Et l'autre portait en suscription « À Madame la Comtesse de Miossens, en son hôtel ». Et c'était une promesse d'être à 2 heures, rue du Faubourg Saint-Honoré. Depuis qu'il y a des amoureux et qui cèdent à l'appel de celles qu'ils aiment, contre leur conscience, contre leurs intérêts, contre leur dignité, un même phénomène se produit dont l'ironie a, de tout temps, excité la verve des poètes comiques. Jamais un homme ne juge plus sévèrement, plus lucidement, une femme dans sa pensée qu'à l'heure où il lui cède plus lâchement dans l'ordre de l'action. Pendant qu'un mauvais fiacre de banlieue le conduisait du boulevard de la Saussée au faubourg Saint-Honoré, Favanne n'échappait pas à la loi commune et il prononçait en esprit contre Clémentine le plus mérité, le mieux établi des réquisitoires. « Je suis curieux tout de même, se disait-il, d'apprendre la nature du service qu'elle va me demander. » S'il s'agit de la démarche auprès du préfet de police à laquelle j'avais pensé, c'est impossible aujourd'hui et toute la semaine. Si Dufresne tombe, l'Ardenne tombe avec lui. Il faut au moins le temps d'en nommer un autre. Mais peut-il s'agir de cela? Pourtant, mes yeux ne m'ont pas trompé. Chaque fois que ce vide-ville s'approchait d'elle, son malaise faisait mal à voir. Elle en avait peur. Et pourquoi une femme de son rang a-t-elle peur d'un homme? Parce qu'il a le moyen de la perdre. Et il ne peut avoir le moyen de la perdre que s'il a été ou son amant ou le confident de son amant. Son amant? Et c'est à moi qu'elle demanderait de la sauver d'un amant? Ce serait encore plus affreux que ce qu'elle a fait autrefois. Mais non, la chose est sans doute beaucoup plus simple. Elle a des difficultés avec son mari et elle s'imagine que ma protection pourra l'aider dans quelques démarches. Laquelle? Il s'agit d'un divorce, peut-être? Ce qu'il y a de certain, c'est que nous n'aurions jamais dû, ni elle m'écrire, ni moi seulement la saluer, après ce qui s'est passé entre nous. Enfin, je saurai le mot de l'énigme. Il faudra qu'elle m'explique sa conduite d'alors. Je ne suis plus le petit jeune homme d'il y a 15 ans. Je trouverai bien le moyen de lui faire dire le vrai motif qui l'a poussé, si jeune, à jouer avec moi si cruellement. Je saurai pourquoi elle m'a fait si mal. Quelle ironie! Je le saurai aujourd'hui que je suis bien étranger à ses misères. Voulait-elle réellement, à cette époque, forcer la main à son père, comme il en accusait, faire surprendre par lui son intrigue avec moi pour le décider à se débarrasser d'elle en la mariant. Alors pourquoi les lettres d'Italie? Pourquoi ces rendez-vous? Avait-elle l'idée de me prendre comme amant une fois mariée? Avant son mariage, une turpitude semblable, une jeune fille? Et pourquoi pas quand cette jeune fille a pu agir comme je l'ai vue agir? Et maintenant, elle me rappelle nos relations, elle ose me les rappeler, et elle trouve des mots presque tendres dans sa lettre parce qu'elle a besoin de moi. C'est pour cela que je ne pouvais pas ne pas y aller. Je veux qu'elle sache ce que valait ce cœur qu'elle a bafoué. Je lui rendrai le service qu'elle me demande si je le puis. Et ce service, une fois rendu, je ne la reverrai jamais. Ce sera ma vengeance de ce qu'elle m'a fait autrefois, une noble et haute vengeance. Ce sont les seules qui soient permises contre une femme. Je l'aurai attendu 15 ans, cette vengeance. Je vais la voir. Tous ces raisonnements, cruels ou indulgents, injustes ou magnanimes, valaient ce que valent des raisonnements. Rien que de les faire, c'était recommencer d'aimer Clémentine. Qui discute avec une femme est déjà vaincu. Favane, en argumentant ainsi, croyait de bonne foi conduire sa pensée. Nous sommes tous pareils quand nous nous donnons des motifs pour aider simplement à ces impulsions inconscientes dont l'entraînement nous étonne nous-mêmes, tant nous connaissons peu ces ténèbres de notre être sexuel où sommeille tour à tour et s'éveille, où s'apaise et s'exalte le plus impérieux, le plus animal à la fois et le plus spirituel de nos instincts. En réalité, Favane, à cette heure, était de nouveau la victime d'un déplacement de personnalité semblable à celui dont il avait triomphé la nuit précédente. L'admirable philosophe du Pantagruel résume dans un fantastique symbole beaucoup des contradictions soi-disant inexplicables de la vie humaine lorsqu'il imagine cette fable des paroles gelées puis dégelées qui retentissent alors que les bouches dont elles émanent ont été depuis longtemps fermées par la mort. Nous portons, dans les arrière-fonds de notre âme, des mots que nous nous sommes prononcés à nous-mêmes à une époque lointaine de notre jeunesse, mots grandioses ou passionnés que le destin nous a forcés de garder pour nous seuls. Par-dessous ces mots dorment des sentiments au terme desquels nous n'avons pu aller, un idéal que nous n'avons pu réaliser. Et voici qu'à 35 ans, à 40, à 50, dans la chaleur d'une émotion inattendue, ces paroles gelées, pour parler comme le conteur du XVIe siècle, fondent et sont ouïes, ce qui veut dire en français courant que les sentiments jadis étouffés se réveillent et que l'idéal aboli se ranime. C'est surtout dans l'ordre des choses religieuses que s'observe cette reprise de l'homme nouveau par un homme ancien qui reposait dans l'autre, immobile et pourtant vivant. Un moraliste moderne, moins poétique et plus méprisant que le pittoresque et généreux Rabelais, compare quelque part ces vitalités tardives de nos sentiments et de nos pensées d'autrefois aux éclosions des microbes conservées depuis des années dans des milieux défavorables et qu'une influence nouvelle féconde soudain. Si le vieux monsieur de Révigny avait pu, par cet après-midi de printemps, se relever de son tombeau du Père Lachaise et revenir errer autour de sa demeure, sans aucun doute, il eût caractérisé plus brutalement encore la démarche du député de Neuilly. Il eût rappelé à la réalité de son âge et de sa situation. Mais quelle réalité ! Le Favane qui descendait de voiture rue du Faubourg Saint-Honoré sonnait à la grande porte cochère, demandait Madame de Miossens au concierge, traversait la grande cour, entrait dans la bibliothèque, ce Favane frémissant, nerveux, impulsif, irréfléchi, avait-il rien de commun avec le collègue attendu chez Martial Parcellier, avec le judicieux et précis logicien, le manieur d'assemblée, le futur ministre? Parole dégelée, Bassie ressuscité. Il est certain que l'homme introduit par le valet de pied dans la bibliothèque subissait à cette minute les mêmes émotions que l'étudiant pauvre d'il y a 15 ans, qu'il était réellement cet étudiant pauvre, sauf l'illusion et l'estime. Clémentine était assise quand Michel entra devant la même table où celui-ci avait coutume de s'asseoir du temps qu'il travaillait à classer les mémoires de l'ancêtre du président guillotiné. S'il y avait eu quelques altérations dans l'ameublement de la pièce, elle n'était pas sensible au premier regard. Les Mioscins n'avaient hérité de l'hôtel que dernièrement. Ils s'étaient contentés jusqu'ici de rajeunir les salles de réception et leur appartement privé. Cette bibliothèque, pas très aisée d'accès et surajoutée par caprice dans une portion des bâtiments en retour sur le jardin, était destinée à disparaître tout à fait pour laisser la place à de grandes serres. En attendant, elle demeurait intacte, inhabitée. C'était bien la première fois, depuis sa rentrée à l'hôtel après la mort de son père, que la comtesse Clémentine y passait seulement un quart d'heure. Les traces d'un nettoyage hâtif et incomplet se voyaient partout empreintes. La poussière couvrait la tranche des volumes, les tables et les verres des estampes pendues au mur. Le godet de l'encrier était vide, les plumes rouillées dans les porte-plumes et le livre pris au hasard par la jeune femme pour se donner une contenance n'avait jamais été ouvert par elle avant que le domestique fût venu annoncer M. Michel Favanne. C'était un tome quelconque d'une histoire diplomatique de l'Europe depuis le traité de Westphalie. Quoiqu'il fît beau et tiède au dehors, un feu brûlait dans la cheminée qui dissipait à peine l'humidité amassée dans cette vaste pièce depuis le longtemps qu'elle était abandonnée. Tous ces menus signes arrivèrent à la fois à l'observation suraiguisée de Favanne. La ruse était trop certaine, Clémentine le recevait là pour que les images de jadis se fissent plus abondantes, plus présentes, plus irrésistibles. Ainsi, dès la première minute, il avait de nouveau l'évidence de sa constante, de son incorrigible duplicité. Il sentit son cœur se resserrer physiquement, et pourtant, il ne pouvait se repentir d'être venu, tant la jeune femme était idéalement jolie, si pareille surtout aux souvenirs qu'il conservait d'elle. Elle avait choisi, pour que son teint délicat de blonde parût plus délicat encore, une robe d'un vert myrte, en velours de chasse à petite côte, qu'elle aurait pu porter comme jeune fille. Elle avait au cou une chaîne pour la montre, dont le fin tressage d'or et de perles suivait les lignes restées si souples de son buste. Michel lui avait vu cette chaîne autrefois, et aussi les deux petites perles sans monture, comme écloses à même les lobes transparents et fragiles de ses oreilles. Elle avait ôté ses bracelets, excepté un, une gourmette où pendaient quelques médailles antiques. Michel connaissait encore, pour les avoir maniées à ce même bracelet, sur ce même bras, dans cette même chambre, ces belles pièces d'argent, trésor amassé dans ses voyages diplomatiques par M. de Révigny, et qui portaient l'un la Vierge casquée de Corinthe, une seconde la chouette d'Athènes, une troisième la cavale de Carthage auprès du palmier, une quatrième la rétuse syracusaine coiffée de sa résille. Et quand Clémentine avança la tête avec un mouvement doux, presque câlin, pour saluer son ancienne amie, l'illusion du souvenir fut si forte qu'il lui aurait pardonné beaucoup d'autres ruses et de pires rien que pour cette vision. Passé 40 ans, on a de ces faiblesses d'attendrissement devant ce que l'on sait pourtant n'être qu'un mensonge, si, pour une minute, ce mensonge nous fait revivre une heure de notre printemps à jamais fini. L'homme qui n'est plus jeune sent trop bien que, dorénavant, tout dans les choses de l'amour ne sera plus pour lui que mirage. Où trouverait-il la force d'en vouloir à la femme qui s'ingénie à l'enchanter de ce mirage, surtout quand elle lui parle avec cette voix qu'avait Clémentine, si musicale, si prenante, quand en écoutait le seul accent, on croyait l'entendre sentir, et même quand il sait de la façon la plus certaine que les adroites virtuoses de ces voix caressantes en jouent comme d'un instrument, qu'un cœur vieillissant a tôt fait de se laisser de nouveau séduire à leur sortilège. « Vous êtes venu !» disait-elle simplement au visiteur, en lui faisant signe de s'asseoir et sans se lever elle-même de la vieille table de travail. « Merci. Je ne sais pas si vous pourrez me rendre le service que vous m'avez permis de vous demander. Mais vous m'en avez rendu un, le plus grand de tous, en me parlant comme vous m'avez parlé hier, et aujourd'hui, accourant à mon premier appel. Vous m'avez fait comprendre qu'il y a des choses qui durent dans la vie, de nobles sentiments, de nobles cœurs. on a quelquefois besoin d'en avoir la preuve.